La sorcière des bois verts.
Connaissez-vous les bois verts? Ils s'étendent du lac d'Enchantus jusqu'à la ville de Sortibus. On raconte que, dans ces bois verts, depuis des millénaires, il se passe des choses extraordinaires. On raconte que dans ces bois verts, depuis des millénaires, habitent des sorcières. Tout au fond des bois verts, habite une sorcière appelée Picpus. Cette sorcière est très solitaire. Elle vit seule dans un grand manoir. Pour lui tenir compagnie, elle a un gros chat touffu et paresseux nommé Phébus, une tribu d'araignées toutes velues et un vieux balai volant défraîchi. La tribu d'araignées a établi son campement dans la bibliothèque au deuxième étage. Elles tissent silencieusement leur toile entre les grimoires, à l'abri des courants d'air. Le gros Phébus, lui, passe ses journées à ronronner dans la cuisine à côté du grand fourneau. Quand la nuit tombe sur les tourelles du manoir, il s'étire, se lèche la patte droite et va faire un petit tour dans les gouttières de pierre. Quant au vieux balai, il est posé contre le mur tout en haut des escaliers de l'observatoire. Cela fait des années qu'il n'a pas servi, car notre sorcière a le mal du pays. Impossible pour elle de quitter son manoir, ses grimoires et son élevage de cafards. Il faut dire que la Picpus habite un drôle de manoir. Il est dans sa famille depuis des générations et il tient encore debout grâce à plusieurs sortilèges et inventions. La grand-mère de la Picpus, de son vivant, a capturé un petit nuage qui se promène encore au-dessus du potager pour arroser les plantes et les légumes que la sorcière met dans ses potions. Le gros caillou argenté perché sur le toit, c'est un attrapeur de lune. Il capte les rayons de la lune pour éclairer les pièces les plus sombres du manoir. C'est sa grande tante qui l'a installée. Quant à la Picpus, elle a fabriqué une petite hélice qui tourne même sans vent. Lorsqu'elle part cueillir des herbes folles dans les bois, mais qu'elle a une marmite sur le feu, elle accroche l'hélice à sa louche pour remuer la potion. La Picpus a quelques copines qui habitent les environs. Tous les dimanches après-midi, elles viennent siroter une infusion de potimarron et grignoter des madeleines de marjolaine dans le manoir des bois verts. Elles parlotent et papotent et échangent leurs incantations de sortilèges et leurs recettes de potions magiques. Mais ce dimanche n'est pas un dimanche comme les autres. Toutes les sorcières se réunissent dans le petit salon du manoir. Comme d'habitude, Yvonne s'assoit sur un vieux pouf défraîchi assorti à sa cape jaune canari. Babette, qui ne va nulle part sans sa chouette perchée sur son épaule, prend place sur une petite chaise en osier près de la cheminée. Monique, depuis qu'elle est revenue de son voyage en Afrique, s'assoit toujours par terre sur le tapis usé. Quant à Phébus le chat, sa queue dépasse dessous le gros canapé mou. Alors que la Picpus sert l'infusion de potimarron à Yvonne, Babette et Monique, la vieille Sidonie déboule en trébuchant sur sa grande jupe à carreaux gris.
Nom d'un pissenlit, les amis, vous ne devinerez jamais ce que j'ai appris !
Crie Sidonie.
Poil de cigogne !
S'étonne Yvonne.
Qu'est-ce qui t'arrive ?
C'est une tragédie !
Lui répond Sidonie en s'affalant sur le gros canapé mou. Phébus ouvre un œil, renifle le mollet de Sidonie, se lèche une moustache et se rendort.
Allons, allons, vieille chouette ! Calme-toi et raconte-nous tout !
Rouspète Babette.
Oui, ça ne doit pas être si dramatique !
Pronostique Monique.
Mais si, mais si !
S'écrie Sidonie.
Par la barbe du Mistigris, vous n'avez même pas idée.
La Picpus lui tend une madeleine pour la calmer. Tout en mâchouillant sa madeleine, Sidonie commence à raconter.
Ce matin, je suis allée au marché à Sortibus. Il me fallait absolument du safran pour réussir un enchantement. Comme d'habitude, je me suis fait toute discrète. J'ai tendu l'oreille, de ci, de là, pour attraper quelques nouvelles.
Elle fait une pause pour avaler une gorgée d'infusion.
« Et alors ?»
s'impatiente la Picpus.
« Eh bien, figurez-vous que les bois verts vont bientôt accueillir un parc d'attractions !»
La Picpus s'étrangle avec sa madeleine.
« Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il fabrique ?»
se pique Monique.
« Répète, répète !»
caquette Babette.
« Oui, oui, oui ! Vous avez bien entendu ! Ils vont construire un parc d'attractions au milieu de nos bois verts chéris !»
renchérit Sidonie.
« Tu en es sûre ? »
marmonne Yvonne.
Certaine, j'ai entendu Madame la mère l'expliquer au fromager. Il y aura un grand 8, une grande roue et même des auto-tamponneuses.
Gémit Sidonie. Nos sorcières sont sous le choc. Un parc d'attractions, c'est une catastrophe pour les bois verts. Un parc d'attractions, ça fait du bruit et de la lumière, ça fait fuir crapauds et cafards. Et surtout, surtout...
Tous les marmots vont débarquer ?
Panique Monique.
Il y aura des gamins dans tous les coins.
Rouspète Babette. La Picpus devient toute blanche, puis toute verte, puis toute rouge. Ses amies sorcières n'aiment pas beaucoup les enfants. Mais elle les déteste, elle les hait. Elle voudrait qu'ils disparaissent tous de la surface de la terre. Elle se rassoit sur sa chaise et se prend la tête entre ses mains.
C'est pas possible, pas possible! Ces bois sont le seul endroit tranquille à des kilomètres. Personne ne vient nous enquiquiner ici. On peut faire nos potions et nos sortilèges à l'abri des enfants. Mais là, avec un parc d'attractions au milieu des bois verts, ils vont venir mettre leurs petits nez de fouine partout.
Qu'est-ce qu'on va faire?
Bougonne Yvonne.
Rentrons chez nous. Réfléchissons chacune de notre côté et demain nous échafauderons un plan diabolique.
Explique Monique.
Oui, tu as raison. Reprenons nos esprits. Nous allons trouver une solution.
Lui répond la Picpus. Une par une, les sorcières quittent le manoir. Yvonne rentre chez elle par le chemin du lac aux cigognes. Babette et sa chouette prennent la route des alouettes. Monique passe par le carrefour des vipères à spic. Et Sidonie traverse le pré aux pissenlits. La Picpus se retrouve seule au milieu de son salon. Elle rumine.
Un parc d'attractions, manquait plus que ça. Toutes les sorcières de ma lignée ont habité dans ces bois verts. Je ne les laisserai pas venir mettre leur manège et leur barbe à papa partout chez moi.
Phébus, qui a suivi d'un œil toute la conversation entre les sorcières, s'étire et sort de dessous le canapé. Il saute sur les genoux de la Picpus et ronronne pour rassurer sa sorcière.
Oui, tu as raison mon chat. Cette pauvre Sidonie est un peu dure d'oreille. Et puis elle perd la boule un peu ces derniers temps. Elle a peut-être mal compris. Pour l'instant, je n'ai rien remarqué de suspect dans les bois. Attendons de voir.
Le soir tombe. Un peu rassurée et calmée, la Picpus se prépare pour la nuit. Elle détache ses longs et beaux cheveux gris et les tresse en une natte épaisse. Elle avale un bouillon de poivron parfumé à l'estragon et se met au lit avec son livre préféré, Les aventures d'Anouchka, la sorcière aux 40 chats. L'attrapeur de lune avale les rayons d'opale de la lune et le petit nuage verse une fine bruine sur les légumes du potager. Dans la cuisine au bout de la maison, la louche touille une potion vert de gris dans la grande marmite grâce à l'hélice qui tourne toute seule. La Picpus dort tranquillement dans son lit de flanelle, son livre posé sur son ventre. Elle ne se doute pas une seule seconde de ce qui l'attend le lendemain. Le jour s'étire sur les bois verts. Les rayons du soleil viennent chatouiller les tourelles du manoir de la Picpus et les moustaches de Phébus qui dort en rond sur un vieux fauteuil en velours. La Picpus ronfle à en faire trembler les toiles d'araignée dans son grand lit à baldaquin. Quand soudain, on toque à la porte du manoir. Pas de réponse, il en faut plus pour sortir la Picpus de ses rêves. Voilà qu'on tambourine maintenant. Phébus ouvre un œil et regarde par la fenêtre. À travers les crottes de mouches et les toiles d'araignée, il aperçoit un gros monsieur en costume orange et chapeau mou ridicule et une grande dame toute sèche serrée dans un imperméable gris. Pour la troisième fois, le gros monsieur tape du poing sur la porte. Phébus saute sur les pieds de la Picpus.
Maudit chat ! Ça ne va pas, les moustaches, de me réveiller comme ça !
Sursaute la sorcière. Elle s'assoit sur son lit.
J'étais en train de rêver que je transformais tous les gamins de cette planète en ouistiti et ça nous faisait des vacances.
Trois énormes coups résonnent dans le manoir.
Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons de la visite à cette heure-ci?
S'étonne la Picpus en sortant de son lit. Elle attrape son vieux châle troué et descend les escaliers en boitillant.
Ça va, j'arrive!
Elle ouvre la porte et se retrouve face au grand monsieur en costume orange.
Eh ben, vous n'êtes pas matinal, vous!
Sourit le monsieur en exhibant fièrement deux dents en or. La Picpus examine ce drôle de visiteur. Il ne lui inspire pas confiance.
Bonjour, chère madame. Je me présente, Maurice Lamalice, pour vous servir.
Annonce-t-il grandiloquent en lui tendant une main blafarde aux doigts courts et potelés. La Picpus le regarde en pinçant du nez. Puis, elle jette un coup d'œil à la dame en gris qui fixe le nuage au-dessus du potager d'un air intéressé. La dame se tourne vers elle en faisant claquer son imperméable.
Bonjour, je suis Madame la Mère, Birgitte de Grande Maison. Mais vous devez sans doute me reconnaître. Mon portrait est affiché partout en ville.
Dit-elle d'une voix traînante en jetant un regard méprisant au trou sur le châle de la Picpus. Cette dernière hausse les épaules. La dernière fois qu'elle est allée dans la ville de Sortibus, c'était une nuit de pleine lune pour capturer des rats des villes. Elle n'a pas vraiment fait attention aux affiches.
Bonjour, monsieur Maurice Machin et Birgitte Truc. Et vous êtes ici pour quoi, au juste?
Ma très chère madame, comme vous le savez sans doute déjà, puisque tout le monde ne parle que de ça, vous allez avoir la chance, que dis-je, l'honneur, d'être bientôt la voisine de notre tout nouveau super géant maxi hyper loupiloup 3000.
La Picpus s'étrangle. Phébus feule et crache à ses pieds.
Quoi?
Cette parcelle de la forêt juste ici a été choisie pour implanter un magnifique et tout neuf parc d'attractions que Monsieur Lamalice va construire avec l'accord et je dirais même les encouragements de la mairie de Sortibus.
Explique Birgitte de Grande Maison en désignant le jardin de la Picpus.
Nom d'un limaçon! Qu'est-ce que vous me chantez là? C'est chez moi ici! Hors de question de venir construire votre machin chose 3000 dans mon jardin!
Ah mais non, madame! Sachez que selon la réglementation en vigueur de la commune concernant les parcelles cadastrales, votre terrain ne saurait s'étendre plus loin que ces trois piquets que nous avons plantés là-bas.
La Picpus devient verte, puis rouge. Si on s'approche un peu plus, on pourrait presque voir les poils de son menton se dresser de colère. Pour qui se prennent donc ces deux odieux personnages pour venir planter des piquets au milieu de son jardin et lui expliquer que selon les lois de Trotrompion du cadastre blablabla, poil de rat n'importe quoi? Maurice Lamalice devine que la sorcière ne va pas tarder à s'énerver pour de bon. Il tente de l'amadouer.
Attendez, attendez, cher ami. Nous avons une proposition à vous faire qui va très certainement vous ravir.
Ça m'étonnerait, mais dites toujours!
Lui répond la Picpus en faisant un dernier effort pour ne pas envoyer promener ses deux agaçants visiteurs.
Vous avez une magnifique demeure!
S'enthousiasme-t-il. La Picpus lève un sourcil.
Nous pourrions en faire quelque chose d'extraordinaire ensemble. Ces toiles d'araignée, par exemple, ce sont des vraies?
Ajoute-t-il en montrant du doigt les fils d'argent accrochés au-dessus de la porte.
« Bien sûr que ce sont des vrais !»
lui répond sèchement la sorcière. La mère réprime difficilement une moue de dégoût.
« Merveilleux, c'est merveilleux! Chère madame, je vous fais une offre très spéciale. Que diriez-vous si nous installions une attraction dans votre manoir? Nous pourrions en faire le manoir hanté le plus mirifiquement terrifiant de toute la région. Que dis-je de tout le pays, mais que dis-je du monde entier?
Un manoir hanté. La Picpus est bouche bée. Il lui attrape le bras et d'un tour de main la fait tourner.
Imaginez, ici, une sorcière, vous, par exemple, qui accueille les visiteurs avec son chat méchant sur l'épaule. Là-bas, un train fantôme qui descendrait dans la cave. Au-dessus de la porte, une tête de mort qui cracherait du feu et des griffes de monstres qui barrent l'entrée. Rien que d'y penser, j'en ai des frissons partout. Qu'est-ce que vous en dites, hein? Et puis, vous deviendrez célèbre, c'est sûr. Les gens se bousculeraient pour avoir un autographe. Les enfants vont vous adorer.
Alors là, c'est le pompon. La pique-puce explose.
Carabistouille de pique-nique-touille! Sortez de chez moi et ne revenez jamais avec votre loupiloup de malheur, votre fantôme, vos marmots hurlants et gesticulants. Jamais je n'accepterai une chose pareille, vous m'entendez? Jamais!
Et sur ces mots, elle leur claque la porte au nez. Maurice la Malice ne peut pas supporter que cette vieille dame au nez crochu l'envoie valser lui et son super géant Maxi Hyper Loupiloup 3000.
Hein? Eh ben, puisque vous le prenez sur ce ton, tant pis pour vous. Nous trouverons bien un moyen de vous faire partir d'ici. Hein, et nous construirons notre parc d'attractions, que vous le vouliez ou non.
Oui, j'ai bien l'impression que vous n'êtes pas très en règle avec la réglementation de la commune, de toute façon. Et votre manoir tombe en ruine, et il ne respecte pas les normes de propreté qui plus est.
Renchérit Birgit de Grande Maison en regardant à travers les carreaux d'un air dégoûté. La pique-puce fulmine dans son salon. Elle grimpe d'un pas déterminé jusqu'à sa bibliothèque et attrape le manoir sortilège et enchantement contre les enquiquineurs, écrit par la grande sorcière Nélia.
Potion de fête le doron, gris-gris anti-abruti, enchantement de fichez-moi le camp, sort pour les plus retors. Ah, voilà le sortilège, débarrassez-moi le plancher.
Elle répète la formule dans sa tête et ouvre grand sa fenêtre. Maurice la Malice l'aperçoit et lui crie.
Alors, vous avez changé d'avis? Vous êtes prête à accepter mon offre?
À ça jamais!
Lui rétorque la pique-puce. Puis, elle récite le sortilège.
Par la poussière du temps qui passe, l'œil perçant du rapace, les embruns de sommeil et l'éclat des groseilles, que ces deux malotrus retournent d'où ils sont venus.
En un éclair, Madame la Mère et Maurice la Malice sont projetés dans les airs et retombent les quatre fers en l'air sur leur derrière, de l'autre côté du jardin.
Oui, partons d'ici, cette fichue sorcière nous jette des sorts!
Hurle-t-il en courant à travers les bois verts. La pique-puce sourit. Phébus vient se frotter contre ses chevilles.
Efficace, ce sortilège, mais je n'en suis pas débarrassée pour autant. Ils ne tarderont pas à revenir avec leur maudit parc d'attractions. Il va bien falloir que l'on trouve une solution pour leur sortir cette idée saugrenue de la tête.
Sur ces mots, elle attrape un vieux coquillage posé sur le rebord d'une étagère et le colle contre son oreille.
Je vais passer un petit coup de coquillage à cette vieille chouette de Babette. Elle est loin d'être bête. Et qui sait, elle aura peut-être une idée en tête pour m'aider.
La pique-puce passe la journée à ronchonner. La visite de Maurice la Malice et de Birgit de Grande Maison l'a mise de très mauvaise humeur.
Un parc d'attractions dans mon jardin, un train fantôme dans mon manoir, on aura tout vu.
Maugrait-elle en manquant de trébucher sur la queue de Phébus qui traîne dans les parages.
Qu'est-ce que tu fais dans mes pattes, maudit matou? Va plutôt chasser les souris du grenier, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Je dois trouver une solution pour faire annuler leur projet ridicule de loupi-loupe machin-chose.
Phébus, vexé, miaule et se glisse par la fenêtre entrebâillée pour aller faire un tour dans le jardin. Trois cris rauques de corbeaux retentissent dans le salon. C'est la grande horloge qui sonne 3 heures.
Babette ne devrait plus tarder à arriver.
Elles se sont parlé grâce à leur téléphone coquillage un peu plus tôt dans la journée. La pique-puce l'a appelée pour lui raconter la visite de la mère et du constructeur de parc d'attractions. Babette, qui est une experte en sortilèges, lui a promis de l'aider à trouver une solution. Ah, d'ailleurs la voilà qui arrive, sa chouette endormie sur l'épaule, traînant derrière elle une énorme valise. Tout essoufflée, elle s'affale dans le fauteuil en osier.
J'ai passé la matinée à chercher dans mes grimoires, mes armoires et mes placards.
Et alors ?
Tout est là !
Lui répond Babette en désignant la grosse valise. La pique-puce s'approche.
Attention, ne l'ouvre surtout pas. Le sortilège se retournerait contre toi.
La picpus se recule. C'est alors qu'elles entendent des voix dans le jardin. Phébus rentre dans la maison ventre à terre et court se cacher sous le canapé.
Qu'est-ce que c'est encore ?
Rousse pète la picpus en passant la tête par la fenêtre. Deux hommes et une jeune femme aux cheveux lisses et roux se tiennent dans son jardin, au milieu des citrouilles, avec des casques de chantier sur la tête et des instruments bizarres dans les mains. La picpus sort sur le perron du manoir en gesticulant.
Je peux savoir ce que vous fabriquez ?
Bonjour. Moi, c'est Margot et je suis conductrice de travaux. Ces deux messieurs sont géomètres. Vous savez, nous travaillons pour Monsieur Lamalis. Et là, nous prenons des mesures pour l'installation du Loupiloup 3000.
Lui répond poliment la jeune femme en caressant distraitement un grand collier vert pendu autour de son cou.
Mais je rêve !
Ne t'énerve pas, ça n'en vaut pas la peine.
Lui chuchote Babette à l'oreille.
Utilisons plutôt ma valise.
Elle s'approche de Margot et de ses collègues.
Excusez mon amie, elle est un peu patraque aujourd'hui.
La picpus lève les yeux au ciel.
Puisque vous avez l'air très habile et que vous avez plein d'outils très impressionnants, peut-être pourriez-vous nous rendre un petit service ? Nous n'arrivons pas à ouvrir ma valise et j'en ai besoin car je dois partir en vacances demain.
Explique Babette en souriant de sa grande bouche à moitié édentée. Elle se tourne vers la picpus et lui fait un clin d'œil. Un des géomètres hausse les épaules.
On n'a pas le temps, madame.
L'autre géomètre lui répond gentiment.
Allons, on a toujours le temps pour aider les grands-mères. On va s'en occuper. Elle est où, votre valise ?
Demande-t-il en se tournant vers Babette.
Je t'en donnerai de la grand-mère, moi.
Bougonne la picpus en allant chercher la valise. Elle la traîne prudemment jusque dans le jardin. Le géomètre s'approche avec une grande pince.
Non, non, attends, laisse-moi faire.
Lui demande Margot en se précipitant pour lui prendre la pince des mains. Babette fait signe à la picpus de se reculer. Celle-ci se dépêche de rejoindre son amie sur le perron. D'un claquement de la pince, Margot casse la serrure de la valise. Un grand nuage orange en sort, enveloppe Margot un moment, et pchit, plus rien. Les deux sorcières froncent les sourcils. Margot éclate de rire.
Monsieur Lamalis avait raison, vous êtes bien des sorcières. Mais je m'attendais à un peu mieux qu'un pauvre sortilège de confusion.
Je ne comprends pas, ce sortilège est infaillible normalement. Vous auriez dû être complètement déboussolé et ne plus jamais retrouver le chemin jusqu'au manoir.
Eh oui, mais je suis protégée par un enchantement beaucoup plus puissant que tous vos sorts et tous vos tours. Je suis la fille du grand sorcier Gaspard, et grâce à son enchantement, le chantier du Loupiloup est aussi protégé.
Dit Margot en touchant du bout des doigts son collier scintillant.
Elle a un gris-gris de protection.
Observe la picpus.
Nous ne pouvons rien faire contre le sorcier Gaspard. Ses pouvoirs sont très puissants. Ils vont venir faire leur parc d'attractions ici, Babette. C'est une horreur. Je ne pourrai pas les en empêcher maintenant qu'ils sont protégés par cette fille et son enchantement. Regarde-les, ils prennent les mesures. Je ferai bien de mettre la clé sous la porte et de me chercher un autre endroit où vivre.
Ajoute-t-elle en refermant la porte, désespérée. Phébus lance un long miaulement de désespoir.
Allons, allons.
Essaye de la rassurer Babette en lui tapotant maladroitement l'épaule. Mais elle ne sait pas trop quoi dire. Elle n'a jamais vu la picpus aussi abattue. Soudain, des cris de douleur leur parviennent depuis le jardin. Margot et les deux géomètres ont lâché leurs outils et zigzaguent en courant dans les bois.
Regarde, on dirait qu'ils se font attaquer par quelque chose.
En effet, de petites billes de terre fondent droit sur eux et rebondissent sur leur tête. Ils ne tardent pas à déguerpir sans demander leur reste. La picpus et Babette sortent prudemment de la maison.
Ça alors ? Qu'est-ce qui a bien pu les faire fuir comme ça ?
Un craquement retentit dans l'arbre au-dessus de leur tête.
Attention, Suzy, tu vas tomber.
Chut, Paco, tu vas nous faire repérer.
Mais c'est trop tard. Les sorcières ont aperçu les deux enfants perchés dans les branches du chêne, leur sarbacane et leur sac de billes à la main. Thank you. Suzy et son petit frère Paco sont posés à califourchon sur la plus grosse branche du vieux chêne. La Picpuce et sa copine Babette n'en croient pas leurs yeux. Jamais aucun enfant n'a osé s'aventurer jusqu'au manoir des Bois Verts. Comme à chaque fois qu'elle voit des enfants, la Picpuce est prise d'une crise d'urticaire. Elle devient toute rouge et commence à se gratter partout.
« Qu'est-ce que vous faites là, fichu marmot ?»
s'énerve-t-elle en grattant le bout de son long nez crochu.
« C'est pas possible! C'est un moulin chez moi ces derniers temps! D'abord leur maudit parc d'attractions dans mon jardin, et maintenant des gamins cachés dans les arbres! Demain, ce sera quoi? Une soucoupe volante? Des dinosaures ?»
Cette sorcière toute rouge et vociférante fait peur au petit Paco, qui se met à sangloter sur sa branche.
« Allons, allons, calme-toi !»
dit Babette à la Picpuce.
« Après tout, ils t'ont rendu service avec leur sarbacane et leur bille. Ils t'ont fait fuir les géomètres et cette Margot fille de sorcier. Même moi, je n'avais pas réussi avec mon sortilège de confusion. Essayons de savoir ce que ces deux gamins font ici. »«
Ouais !»
répond la Picpuce en se grattant son menton velu.
« Je veux bien me calmer, mais qu'il arrête de couiner alors »
dit-elle en désignant le petit garçon.
« Eh oh !» S'il pleure, c'est parce que vous lui faites peur à crier comme ça.
Réplique Suzy en se laissant glisser de la branche jusqu'au sol avec agilité.
Allez viens Paco, elles n'ont pas l'air si méchantes.
Dit-elle en faisant signe à Paco de la rejoindre.
Qui es-tu?
Lui demande Babette intriguée par le courage de la petite fille.
Je m'appelle Suzy et voici mon frère Paco. Nous sommes les enfants de Sophie, la garde forestière, et d'Achille le Quérisseur. On habite à côté du puits aux libellules.
Paco saute de sa branche et se glisse derrière sa sœur. Phébus s'approche prudemment et vient renifler leurs pieds. Paco observe la Picpuce qui se gratte les oreilles en sautillant sur place.
Si vous avez des boutons, il faut vous frotter le visage avec des fleurs de bourrache trempées dans du jus de romarin. C'est mon papa qui me l'a dit.
Dit-il timidement.
Ah bon? Et qu'est-ce qu'il en sait, ton père?
Il connaît toutes les plantes qui soignent.
« Tu devrais essayer !»
suggère Babette.
« Pourquoi vous êtes-vous aventurés ici, tous les deux ?»«
Nous avons appris qu'un parc d'attractions allait bientôt être construit ici. Et nous sommes bien déterminés à les empêcher de venir abîmer la forêt. »«
Oui, ils vont couper les arbres et vider l'eau du lac pour leur toboggan géant. Ils vont tout polluer et faire fuir les animaux. »«
Hein ? C'est bien la première fois que je suis bien d'accord avec des marmots !»
dit la Picpuce un peu calmée.
« Mais c'est pas avec votre sarbacane que vous allez réussir à les tenir éloignés bien longtemps. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Ces gens-là ont le bras long. »«
Si, justement, nous connaissons bien Maurice Lamalice. Son fils Barnabé est dans la classe de Paco. »
lui répond Suzy en faisant la moue.
« Ah bon ?»«
Oui, et il est très méchant. Il s'amuse à arracher les pattes des fourmis et des araignées. » Et quand j'ai voulu l'en empêcher, eh ben, il m'a tordu le bras.
Raconte Paco les larmes aux yeux. La Picpuce fronce les sourcils. Elle n'aime pas du tout les gens qui s'en prennent à ses araignées chéries. Soudain, une idée lui passe par la tête.
Et ce Barnabé, est-ce qu'il ne serait pas un peu chouchouté par son père par hasard?
Oui, il est pourri gâté. Son père lui donne tout ce qu'il veut. Et puis, c'est lui qui décide de tout. D'ailleurs, le parc d'attractions, c'est un peu pour lui faire plaisir, je crois.
Répond Suzy. La Picpuce saute en l'air.
J'en étais sûre. Foi de lama, j'ai une idée.
Puis, elle observe les deux enfants d'un air dédaigneux.
Il va falloir qu'on coopère. Je ne sais pas si vous en êtes capable.
Bien sûr qu'on en est capable. Pour sauver les Bois Verts, on est capable de tout.
Réplique Suzy fièrement.
Explique.
Demande Babette intriguée. Son amie a très mauvais caractère, mais c'est aussi une sorcière de génie. Elle a hâte de savoir ce qui lui trotte dans la tête.
Eh bien, puisque Barnabé fait ce qu'il veut de son papa, il suffirait de le convaincre que le parc d'attractions est une mauvaise idée pour faire annuler ce projet stupide.
Alors ça, c'est impossible. Il se fiche complètement de la nature et des animaux. Tout ce qui l'intéresse, lui, c'est les autotamponneuses et la barbe à papa.
Oh, mais on pourrait peut-être lui donner un petit coup de pouce pour le faire changer d'avis.
Pouffe la Picpuce en faisant un petit clin d'œil. Babette n'en revient pas. C'est bien la première fois qu'elle voit la Picpuce faire un clin d'œil. et a des enfants qui plus est.
Comment ça ?
Ah, ma petite, j'ai plus d'un tour dans ma marmite. Demain, je viendrai vous chercher à la sortie de l'école. Vous n'aurez qu'à persuader ce Barnabé de malheur de vous suivre. Le reste, j'en fais mon affaire.
Marché conclu.
Répond Suzy solennellement en lui tendant la main. La Picpus examine les doigts de la fillette et vient les serrer dans sa longue main crochue. Ces gamins ne lui sont pas complètement antipathiques. Tiens, son urticaire a même complètement disparu. Phébus raccompagne les enfants jusqu'au puits aux libellules en ronronnant et en se frottant contre leurs jambes. Babette et sa chouette prennent la route des alouettes. Quant à la Picpus, elle se plonge dans sa bibliothèque. Il lui reste maintenant à trouver la potion qui pourra convaincre Barnabé que ce parc d'attractions est une mauvaise idée. La Picpus a passé toute la nuit dans sa cuisine, les cheveux en bataille au-dessus de sa marmite. Son vieux tablier tout taché par les éclaboussures du bouillon, les yeux fatigués d'avoir lu des centaines de recettes de potions magiques. Elle touille et retouille et patouille.
Mais pourquoi ça ne devient pas violet ? Ça devrait tourner au violet, j'ai suivi la recette à la lettre !
S'énerve-t-elle en se penchant au-dessus de la potion qui reste obstinément grise.
Il faut que ce soit prêt tout à l'heure, si je veux avoir une chance de la faire boire à Barnabé, pour qu'il puisse faire changer la vie de son père, ce Maurice la machin chose de malheur.
Mais la potion n'a pas l'air de vouloir devenir violette. La Picpus relit la recette pour la 30e fois. 3 ml de pipi de grenouille, 1 cuillère à soupe de bave de ver de terre, 2 pistils de pissenlit, 5 pétales de rose multicolores, 1 poil de moussage de rat. Puis, au coucher du soleil, réunir le feu, l'eau, le vent et la terre et faire boire la potion en prononçant la formule magique. Par le pouvoir des quatre éléments, de la parole qui se distille dans les cœurs, du tempus aretus minimus, écoute la voix des bois et de la raison. Elle jette un coup d'œil à l'horloge au corbeau.
7 heures. Cette vieille pique de Monique doit être déjà réveillée. Je vais l'appeler. C'est une spécialiste des potions magiques. Elle pourra sans doute me donner son avis.
Une heure plus tard, on toque à la porte. C'est Monique, enroulée dans son boubou d'Afrique. Comme personne ne vient lui ouvrir, Monique entre dans le manoir escortée par Phébus. Elle avance jusqu'à la cuisine. Une épaisse fumée verte et grise s'échappe de dessous la porte. Ça sent tellement mauvais là-dedans que Phébus a les moustaches qui frisent. Il fait demi-tour sans demander son reste. Monique se bouche le nez et ouvre la porte. Une mousse verte déborde de la marmite et éclabousse les murs du sol au plafond. Imperturbable, la Picpus ronfle au milieu de ce bazar, endormie sur le coin de la table.
« Eh oh, réveille-toi »
crie Monique en lui secouant le bras.
« Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Oh non, ma potion !»
s'exclame la Picpus en se ruant sur sa marmite.
« Je ne sais pas ce que tu voulais faire, mais là, c'est de la mort au rat !»
observe Monique tranquillement en ouvrant la fenêtre.
J'ai passé toute la nuit dessus!
Gémit la Picpus en touillant la potion archibouillie.
C'était une potion de persuasion. C'est ma seule chance de faire annuler leur projet de parc d'attractions.
Ne t'inquiète pas, tu as bien fait de m'appeler, je vais t'aider.
Et ni une ni deux, nos sorcières se remettent au fourneau. En quelques heures, la recette est presque prête. La Picpus se penche au-dessus de la marmite.
Je ne comprends pas! Même avec ta recette, elle reste grise. Je croyais qu'elle devait devenir violette.
Oui, c'est parce qu'il te manque l'ingrédient principal. La larme de sincérité. Tu ne peux la prendre que sur un être innocent, sensible et sincère.
Ah, ça se complique. Je vais voir ce que je peux faire. Mais il est déjà 3 heures. Les enfants ne vont pas tarder à sortir de l'école. Je ferai bien de me dépêcher.
Surtout, n'oublie pas. Pour que la potion marche, il faut que celui qui la boit soit au cœur des 4 éléments.
Oui, je connais un endroit qui sera parfait.
Elle glisse la potion dans une petite fiole et la range dans sa poche. Puis, elle grimpe jusqu'à l'observatoire, dépoussière rapidement son balai, et hop, La voilà partie dans les airs en direction de Sortibus.
« Bonne chance !»
lui crie Monique qui est sortie dans le jardin. Phébus miaule depuis la branche du vieux chêne. Pendant que la Picpus préparait sa potion, Paco et Suzy ont passé une drôle de journée d'école. Impossible pour eux de se concentrer. Ils n'ont pas arrêté de jeter de petits coups d'œil à Barnabé, qui, comme à son habitude, engloutissait un tas de bonbons roses et collants au fond de la classe. Lorsque la cloche retentit, Paco s'approche de lui.
« Dis, Barnabé, est-ce que tu voudrais venir jouer chez nous ? On pourrait grimper dans les arbres !»
lui propose-t-il gentiment. Barnabé le regarde avec mépris, lèche ses doigts pleins de sucre et répond.
« Grimper dans les arbres, c'est nul ! J'ai pas du tout envie de venir chez toi ! Je préfère jouer aux vidéos de zombies ! En plus, là où t'habites, il y aura bientôt un géant parc d'attractions que mon papa il va construire. Et il m'a promis qu'il y aura un manège avec des zombies !»
Les lèvres de Paco se mettent à trembler. Suzy, qui voit que son petit frère est sur le point de pleurer, vient le prendre par le bras.
« C'est pas grave !»
dit-elle en entraînant Paco dehors. Puis, elle ajoute très fort pour que Barnabé les entende bien.
« Tant pis si Barnabé il veut pas venir jouer chez nous, on va essayer notre nouvelle machine à barbe à papa tout seul !»
Les yeux de Barnabé s'allument. Il court derrière Suzy et son frère.
« Attendez, attendez! Une machine à barbe à papa ? Moi j'adore la barbe à papa !»
Suzy fait un clin d'œil à Paco.
« Ah bon ? Tu veux venir alors ?»
répond-elle en prenant un air étonné.
« Oh oui ! Je vais prévenir ma mère !»
fait Barnabé en courant vers une dame au manteau bleu ciel et au nez en trompette qui l'attend à la sortie de l'école.
« D'accord, on t'attend là-bas sous l'arbre !»
dit Paco qui a compris le mensonge de Suzy. Puis, il aperçoit la Picpus adossée contre le marronnier de la place devant l'école, son balai à la main.
« Oh, la cherche... la grand-mère !»
Paco, qui a encore un peu peur de son grand nez crochu, se glisse derrière Suzy.
« Bonjour, grand-mère !»
La Picpus réprime un grognement. Ça ne lui plaît pas vraiment qu'on l'appelle grand-mère. Elle marmonne.
« Oui, oui, bonjour les enfants. Il est où votre Barnabé ?»«
Là-bas. »
dit Paco en montrant Barnabé du doigt.
« C'est bon, je peux venir. J'ai qui elle ? Et pourquoi elle a un balai ?»
demande Barnabé en regardant la Picpus d'un air dégoûté.
« Je suis leur grand-mère. Le balai, c'est pour chasser les araignées. Allez, venez les enfants !»
répond la Picpus en essayant de prendre une voix douce. Barnabé hausse les épaules. Elle est un peu bizarre, cette grand-mère. Mais les voilà partis tous les quatre en direction des bois verts. En chemin, Suzy cueille des pissenlits pour en faire une salade. Et Paco observe les traces que les animaux sauvages laissent au bord des chemins. Barnabé râle. Il n'a pas l'habitude de marcher en forêt et ne voit pas les feuilles des arbres qui jouent à cache-cache avec le soleil ou les petits cailloux blancs qui dessinent des arabesques sur le chemin.
C'est encore loin, votre maison. J'ai mal aux pieds et j'ai faim.
La Picpus étouffe un soupir d'agacement.
Oui, oui, ça va, on arrive.
Ils quittent le chemin et prennent la direction du lac aux cigognes. Paco et Suzy n'ont pas peur, ils connaissent les bois verts comme leur poche. Une fois arrivés au bord du lac, la Picpus propose à Barnabé.
Nous allons faire une petite pause comme tu es fatigué. Tiens, nous pourrions faire un feu, qu'est-ce que tu en dis ?
Non, je veux de la barbe à papa ou je rentre chez moi.
Suzy, en faisant mine d'ouvrir son cartable, propose.
Attends, attends, j'ai des chamallows, on va les faire griller.
La Picpus esquisse un sourire. Elle trouve décidément que cette petite fille est très maligne. Elle ramasse quelques branches, se penche sur le sol et d'un claquement de doigts fait jaillir une étincelle. Paco est émerveillé. Barnabé, lui, ne pense qu'au sucre des chamallows fondant sur les braises. Il se hâte de chercher des branches pour alimenter le feu. Un léger vent agite les feuilles des arbres. Les quatre éléments sont réunis. La potion peut fonctionner. Il ne manque plus que la larme de sincérité. Le soleil tombe doucement au bord du lac aux cigognes. Il ne reste pas beaucoup de temps pour que la potion fonctionne. La Picpuce profite que Barnabé soit occupé à ramasser des branches pour alimenter le feu et qu'il ait le dos tourné. Elle sort sa fiole de potion et se tourne vers Paco et Suzy.
« Bon, il ne manque plus qu'une petite larme pour que la potion soit efficace. »
Suzy se tourne vers son frère. Paco regarde les arbres qui entourent le lac de leur feuillage réconfortant. L'eau qui brille sous le soleil couchant. L'oiseau qui fend l'air au-dessus de leur tête. La nature est si belle que ça lui met les larmes aux yeux. Tout doucement, la Picpuce recueille du bout de ses doigts une petite larme sur la joue de Paco et la fait tomber dans la fiole pleine de potions. Aussitôt, celle-ci prend une couleur d'améthyste et se met à scintiller. Barnabé revient les bras chargés de feuilles mortes qu'il jette sur le feu.
« Ils sont où tes chamallows, Suzy ?»
La Picpuce s'approche de lui et lui tend la fiole.
« Tiens, prends un peu de jus de myrtille, mon petit !»
Barnabé fronce les sourcils. Il commence à trouver la situation bizarre. Et puis le soleil se couche et les branches des arbres forment comme des grandes ombres un peu inquiétantes au-dessus du lac. Mais comme il adore le jus de myrtille, il avale une grande gorgée de potion de persuasion sans se poser trop de questions. La Picpuce récite très vite la formule. Une brume violette enveloppe Barnabé. Le lac frémit. Les flammes du feu vacillent, le vent souffle un peu plus fort et la terre tremble sous les pieds de Paco, Suzy et la Picpuce qui retiennent leur souffle. La brume s'envole. Barnabé est couché par terre.
« Oh, j'espère qu'on lui a pas fait mal !»
s'inquiète Paco.
« Mais non, il dort !»
le rassure Suzy. La Picpuce lui secoue le bras.
« Oh oui, gamin, ça va ?»
Barnabé se réveille doucement. La première chose qu'il aperçoit en ouvrant les yeux, c'est un nuage orangé qui flotte dans le bleu du ciel. Puis, ses yeux suivent les feuilles argentées des peupliers qui se plient et se déplient au rythme du vent. Il trouve tout à coup que c'est la plus belle chose qu'il n'ait jamais vue de sa vie. Oubliez la barbe à papa, les chamallows et les manèges de zombies. Il se redresse.
« Mouah ! Cet endroit est magnifique ! Vous avez trop de chance d'habiter dans ces bois !»
Suzy sourit et la Picpuce fait un clin d'œil à Paco.
Tu sais, si le parc d'attractions il est construit ici, ce lac va être vidé et plein d'arbres vont être coupés.
Barnabé ouvre de grands yeux.
Quoi ? Mais c'est horrible ! Je vais tout de suite rentrer chez moi et dire à mon père qu'il ne faut surtout pas le construire.
Aussitôt dit, aussitôt fait, Barnabé court sur le chemin du retour.
Ça alors ? Il a l'air d'avoir vraiment changé d'avis.
Oui, la potion de persuasion semble avoir fonctionné. J'espère maintenant qu'il saura convaincre son père pour qu'il annule son projet de parc d'attractions. Nous verrons bien en attendant, rentrons chez nous nous reposer un peu.
Merci sorcière, tu as sauvé les bois verts.
Dit Paco en se jetant dans les bras de la Picpuce. Celle-ci est tellement surprise qu'elle se laisse faire. Puis, elle reprend ses esprits.
Oui, oui, bon, ça va, allez.
Dit-elle en se dégageant des bras de Paco. Puis elle se hisse sur son balai et manque rentrer dans un arbre au décollage. Ce câlin l'a toute tourneboulée. Les enfants lui crient
« À bientôt, sorcière !»
en lui faisant de grands signes. Un léger sourire aux lèvres, elle prend la direction de son manoir. Le lendemain à l'aube, on toque à la porte. Phébus saute sur les pieds de la Picpuce.
Ah, c'est pas vrai! Ça ne va pas recommencer!
Crie-t-elle en se redressant dans son lit, les cheveux droits sur la tête.
Oh, ça va, j'arrive!
Elle ouvre la porte et se retrouve nez à nez avec Maurice la Malice et Birgit de Grande Maison. Elle devient toute blanche, puis toute verte, puis toute rouge. Elle qui pensait en être débarrassée.
« Ah, ma chère madame, bien le bonjour. Comment allez-vous ?»
sourit Maurice la Malice de toutes ses dents dorées.
« Comment je vais ? Comment je vais ? Mal ! Très mal ! Très très mal !»
éructe la Picpuce.
« Ah, vous m'envoyez fâchée !»
susurre madame la mère.
« Pourtant, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Monsieur la Malice a décidé, après réflexion, d'abandonner son projet de Loupiloup 3000. » À la place, nous allons faire de ces bois verts un parc naturel pour la préservation des espèces.
La colère de la Picpus retombe comme un soufflet.
Ah bon ?
Eh oui, figurez-vous que c'est mon fils, Barnabé, un petit génie, et si vous voulez mon avis, qui en a eu l'idée. Nous allons tout faire pour protéger ces bois et leurs habitants. Comme l'a dit Barnabé, voir des écureuils et des sangliers heureux, c'est bien plus important que de vendre de la barbe à papa et des tours de manège. Parfois, les enfants voient des choses que nous, les adultes, ne voyons plus. Et comme vous connaissiez bien les plantes qui poussent par ici, vous pourriez nous aider à les recenser, à les protéger. Et qu'en dites-vous ?
Si elle s'écoutait, la Picpus sauterait au cou de Monsieur Lamalice. Elle hoche la tête en signe d'approbation. Maurice et Birgit s'en vont et la Picpus prend Phébus qui traîne dans les parages dans ses bras.
Tu as entendu, mon chat ? On va pouvoir rester tranquille ici. Fini les géomètres dans notre jardin et le loupi machin truc. Et en plus, ils veulent protéger les animaux et les plantes qui vivent dans les bois.
C'est un dimanche presque comme les autres dans le manoir des bois verts. Yvonne, Babette, Monique, Sidonie et la Picpus grignotent leurs madeleines de marjolaine et sirotent leurs infusions de potimarron dans le salon en échangeant leurs recettes de potions magiques et les dernières nouvelles des environs. Quand soudain, un gros boum retentit et Phébus sort de la cuisine ventre à terre, les poils tout ébouriffés.
Suzy, tu t'es trompée ! T'as mis les feuilles de cerfeuil avant le foie de rat !
Ah oui, tu as raison, Paco, zut ! Oh, Barnabé, fais voir le livre de potions.
Tiens, mais on peut sûrement rattraper la potion si on rajoute de la poussière de ver de terre.
Yvonne lâche sa cuillère. Sidonie renverse son infusion. Monique s'étrangle avec sa madeleine. Et la chouette de Babette, endormie sur son épaule, ouvre un œil. Les sorcières n'en reviennent pas. Des enfants chez la Picpus, dans sa cuisine, qui font des potions.
Nom d'une poupée gigogne !
S'étonne Yvonne.
Qu'est-ce qu'ils fabriquent, ces petits loustiques ?
S'excite Monique.
Poil de ouistiti ! Des gamins par ici ?
S'écrie Sidonie.
Ça perd l'hypopète ! Parole de cacahuète, on marche sur la tête !
Hoquette Babette.
Allons, calmez-vous !
Leur répond la Picpus.
Ce sont mes nouveaux petits apprentis. Il faut bien que l'on transmette nos tours et nos sorts à la nouvelle génération. Et je dois dire que le petit Barnabé est très doué !
Ajoute-t-elle avec un clin d'œil.